quitan los aires. Nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte. Contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad. Luchemos por él.
À toutes et tous, c'est l'émission Lundi Matin et vous êtes bien sur Radio Libertaire.
Ici, c'est l'école. Dans le vent, dans la jungle, j'ai appris à compter. Ici, c'est l'école en plein vent. Dans la jungle, j'ai appris à danser. Maître d'école, maître soldat, j'ai peur des bombardiers. Maître d'école, maître soldat, je peux pas m'habituer. Sous mon pupitre, on a creusé un petit trou pour me rassurer. Sous mon pupitre, on a creusé un petit abri pour me protéger. Quand sont venus les bombardiers, mon copain près de moi est tombé. Quand sont venus les bombardiers, mon frère ventre ouvert. Ses tripes dans mes mains j'ai retenu, mais j'ai pas pu le sauver. Maître d'école, maître soldat, j'ai plus peur des bombardiers. Maître d'école, maître soldat, donne-moi des armes pour lutter.
Voilà, on a écouté un texte de Colette Mani, L'enfant soldat, interprété par Lila Tamazit Trio, qui nous avait d'ailleurs fait un joli concert à la librairie Publico. Donc cette chanson-là, un petit peu pour introduire le thème du jour qui sera abordé tout à l'heure, qui m'a été inspiré pour deux raisons différentes. La première, c'est un plateau télé. Un plateau télé dans lequel il y avait un intervenant, un spécialiste quelconque, qui était là et qui a dit ceci: pour alimenter la guerre, il faut du carburant. Et disait-il, du carburant sous forme d'armes, d'armement, mais aussi du carburant humain. Et puis, ce qui m'a également inspiré pour cette émission-là, c'est un texte que m'a envoyé un copain qui s'intitule « Contre les anarcho-militaristes et leur propagande de guerre, à lire et à diffuser sans modération ». Donc voilà, je lui avais répondu que, avec mes modestes moyens, c'est-à-dire ce micro ici, eh bien, je m'y emploierai. Voilà, ça sera pour tout à l'heure, 11h30, il est 11h08, je vous l'ai dit, c'est Radio Libertaire, c'est l'émission lundi matin. Bon, on va rester un petit peu dans la thématique du jour, avec Jacques de Broncard, une chanson, donc « Mutin » de 1917.
Ou des bêtes de somme. Il n'est plus question de confort quand le goudron bouffe le sable et quand il pleut des oiseaux morts et l'homme qui devient jetable. C'est comme une évidence, on est tous concernés, mais c'est non-assistance à plane.
Bon, ça veut pas, Mutin de 1917, on verra pour plus tard, je suis complètement désolé. Donc, qu'est-ce qu'on va écouter du coup? On va écouter la même chanson quand même, Mutin de 1917, et j'espère que là on pourra l'entendre, l'écouter interprété par Serge Hugé Royot. Voilà, j'espère que ça va être bon, et je vous retrouve dans quelques instants.
Vous n'êtes pas au monument aux morts, vous n'êtes même plus dans les mémoires, comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes mort, et deux fois mort. À vos petits-enfants, on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas. Mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffres et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Leur humeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle? Au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement cocufié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie, Mutin de 1917. Avant l'attaque, arrivaient les cercueils, et vous coupiez votre pain sur leur planche, tout juste si le crêpe à votre manche n'annonçait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête, se révolter lui paraissait énorme, elle bavait encore devant l'uniforme, Mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de la Marseillaise qu'une bonne moitié de l'armée française brûlait de faire comme vous. Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute à voir le train dont vont les choses. Mutin de 1917. Mutin de 1917. 17.
Serge Giroyo sur les ondes de Radio Libertaire. Dans quelques instants, je vais vous proposer quelques rendez-vous. C'est l'été, c'est le mois d'août, il n'y a pas grand-chose, mais la rentrée se prépare, notamment à la librairie Publico. Ce sera dans quelques instants le temps pour nous d'écouter un grand classique. Hein, un grand classique, c'est Hey Joe, Jimi Hendrix. Live. Alors, l'agenda, se rencontrer, se voir, discuter, réfléchir, agir ensemble. Je le disais, c'est le mois d'août, donc pas de grand rendez-vous. Mais on peut noter que à la rentrée, et même bien plus tard, des initiatives donc se préparent. En premier lieu, la manifestation qui aura lieu le 20 septembre à Bure. À Bure, contre Cigéo. Donc cette poubelle nucléaire qui s'installe, qui est en projet, qui rencontre aussi donc une grande résistance là-bas, à Bure et dans ses environs. Une étape de cette mobilisation, ce sera donc cette manifestation donc du 20 septembre. Plus d'infos, toutes les infos pratiques sur le site manifbure.fr. www.colette.fr. Et puis également, on peut noter ça sur son agenda, même si c'est pas tout de suite du tout, ça sera pour le mois de novembre, et plus précisément le 11 novembre, la Fédération anarchiste qui prépare une initiative antimilitariste. Et puis, on peut noter aussi que aujourd'hui, tout à l'heure, donc ce lundi 18 août, il y a un appel à se rassembler devant la mairie de Cachan. Alors Cachan, c'est dans le Val-de-Marne, c'est au 8 rue Camille Desmoulins, en soutien au squat du 37-41 rue Guichard, qui risque de se faire expulser bientôt, très bientôt même. L'appel nous dit, grâce à notre présence, nous squatteurs-squatteuses, la mairie s'est soudainement rappelée qu'elle possédait ce terrain. Aujourd'hui, elle souhaite nous expulser pour le vendre à 2,6 millions d'euros au bailleur social CDC Habitat, sans proposer de solution de relogement pour ses habitants actuel. Nous trouvons hypocrite la logique qui consiste à mettre à la rue des personnes aujourd'hui en détruisant leurs habitations pour entamer la construction de HLM inaccessible avant plusieurs années, dont le loyer sera toujours trop cher pour nous et dont les bailleurs comme CDC Habitat n'hésitent pas à expulser les locataires. Donc expulsion imminente, appel à rassemblement donc ce lundi, donc tout à l'heure, à 13h, devant la mairie de Cachan, située au 8 rue Camille Desmoulins. Voilà, c'est pour tout à l'heure. Et comme je vous l'ai déjà fait les dernières semaines, un petit rappel donc aussi de ce qui va se passer donc au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Ça sera donc pour la rentrée, hein, bien évidemment. J'en profite pour vous rappeler que la librairie continue d'être ouverte pendant ce mois d'août, avec une info complémentaire, à savoir que la librairie, pendant les vacances, est fermée le dimanche. Pour le reste, la librairie est ouverte donc du mardi au vendredi, 13h-19h30, c'est ça. Samedi, 10h-19h30, donc fermeture dimanche lundi, mais dès la rentrée, dès septembre, réouverture le dimanche à partir de 13h. Donc cette rentrée sera inaugurée le samedi 6 septembre à la librairie Publico à 16h30 avec une rencontre débat autour du roman d'anticipation féministe Cosmopole de Lucie Giacometti. Mercredi 10 septembre à 19h, une rencontre débat autour du livre La première internationale en France de Michel Codillot. Samedi 13 septembre, rencontre débat à 16h30 avec Alice Béja pour son ouvrage consacré à Voltairine de Clare. Samedi 20, dimanche 21 septembre, c'est la grande braderie de Publico, c'est-à-dire des livres et des disques à des prix très très réduits, entre 1 et 5 euros, que vous pourrez donc trouver, avec également de la musique, bien sûr. Et pour la musique, ça sera plus précisément le samedi, que je dise pas de bêtises, samedi, donc on est le 20 septembre, on sera le 20 septembre à 15h, Paco Munoz, accompagné du guitariste El Rere, qui vous fera donc découvrir le chant flamenco à partir de 15h. Et puis le dimanche, ça sera donc le 21 septembre, mais cette fois-ci à 17h30, un DJ set sauvagement antifa, féministe et cuir qui vous est proposé par Le Mouton qui mord. Donc dimanche 21 à partir de 17h30 à la librairie Publico. La braderie, ça sera dans la rue. Donc, je vous l'ai dit, des livres et donc des disques d'occasion à des prix très 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 réduits. L'occasion de se faire une petite bibliothèque pour pas trop cher ou découvrir eh bien la perle rare, le livre introuvable qu'on souhaitait donc trouver. Le 26 septembre, ça sera donc un vendredi à 19h, rencontre débat avec Marie-Claire Calmus pour son essai de l'espace. Et puis, que dire d'autre encore pour ce mois de septembre qui s'annonce maintenant très très rapidement, samedi 27 septembre, 16h30, rencontre-débat avec Martin Barcilay pour son ouvrage consacré à ceux qui disent non à l'armée en Israël. Nous refusons dire non à l'armée en Israël, paru récemment aux éditions Libertalia. À la librairie Publico, l'endroit où vous pouvez soutenir la station. Vous procurez par exemple la carte d'auditeur d'auditrice qui coûte donc 20 euros. Et puis également, vous procurez le bon de soutien qui permet de soutenir sous forme d'un prélèvement automatique la station. Bon de soutien que vous pouvez trouver également sur le site de Radio Libertaire, radio-libertaire.org, à la rubrique « Nous soutenir ». Donc, vous pouvez télécharger un bon de soutien, le remplir et soutenir financièrement et selon vos possibilités et mensuellement donc la station. Et puis, pour ce qui concerne la radio, vous l'avez noté, comme l'annonce d'ailleurs le site de la radio, le streaming, donc l'écoute en direct, est en panne depuis vendredi 15 août. Une intervention humaine est nécessaire, mais ne pourra pas être faite avant mardi, donc 19 août. La diffusion FM fonctionne, et le podcast aussi. Vous pourrez donc retrouver sur le site les émissions diffusées pendant l'absence de streaming. Si vous nous écoutez, si vous m'écoutez actuellement sur Internet, c'est que vous êtes sur anarchiste.info, dont le streaming, lui, fonctionne bien. Voilà, donc, pour les émissions que vous avez pu louper à cause de cette panne. Donc, pas de panique, les podcasts fonctionnent, et vous pouvez tout retrouver en podcast. Voilà pour la station. Que vous dire de plus? Qu'on va écouter maintenant un petit morceau de musique. On va écouter Cellulix et puis se retrouver dans quelques instants.
Cotiser pour la retraite. asservissement, de discrimination et d'harcèlement sexuel. Un travailleur est à temps partiel, ciel. Liste de nos chefs seront maîtres de nos enfants.
C'est l'ULIX, à l'instant sur les ondes de Radio Libertaire, c'est la radio libre de la Fédération Anarchiste. L'émission lundi matin, donc, avec un thème que je vous ai présenté donc tout à l'heure. Donc on va rentrer un petit peu dans ce sujet-là. Donc je l'ai dit, inspiré par une réflexion, mais je reviendrai dessus en cours d'émission, que j'ai entendue sur un plateau télé où un intervenant galonné, ou en tout cas spécialiste des conflits, etc., disait que pour alimenter la guerre, donc il fallait du carburant sous forme d'armes, mais aussi du carburant humain. Mais on y reviendra en cours d'émission. Et puis je vous disais aussi que c'était un texte qui m'a été envoyé par un copain, un texte qui avait comme conclusion à lire et à diffuser sans modération, et donc, je le disais tout à l'heure, ma modeste contribution sera de vous le proposer ce matin. Le texte qui suit est la traduction d'une déclaration publiée par Convulsimo, un collectif berlinois anti-guerre, pour riposter à une campagne de menaces, d'intimidation et de calomnie menée par les solidarités collectives qui se disent anarchistes tout en soutenant l'État et l'armée ukrainien. Nous tenons à préciser que ces intimidations ne sont pas cantonnées à l'Allemagne. Lors d'une soirée de soutien au collectif anarchiste ukrainien Assemblée, dont j'ai longtemps et souvent parlé dans cette émission, le 3 mai à Montreuil, des diffamations similaires ont eu lieu. Cette fois, c'est le réseau international Les Peuples Veulent qui s'est fait le relais des solidarités collectives en essayant de faire annuler la soirée. Face à l'enrôlement forcé et aux promoteurs de guerre, nous nous tiendrons toujours du côté des déserteurs. Nous partageons pleinement les critiques des camarades de Convulsimo contre le nationalisme, le militarisme et la guerre capitaliste, ainsi que leur solidarité internationaliste inébranlable envers Assemblée et tous les déserteurs et objecteurs d'Ukraine, de Russie, d'Israël et de tous les autres champs de bataille de la guerre capitaliste. Leurs positions nous paraissent d'autant plus importantes à une époque où, dans un contexte de crise capitaliste aiguë, l'escalade des conflits, la montée des nationalismes et l'aggravation des antagonismes transnationaux s'accompagnent de visions campistes à lire et à diffuser sans modération. Donc c'est un copain qui m'a donc envoyé ce texte et à qui j'ai répondu que je ferai ce que je peux pour le diffuser. Ce copain, c'est Georges Valadas. Vous le connaissez peut-être aussi sous son pseudonyme qu'il a utilisé pour signer des livres et des articles, à savoir donc Charles Rive, qui, à travers son parcours, son long parcours, eh bien, a été en 1967 un déserteur, lui, de l'armée portugaise. Voilà. Et qui vient d'ailleurs de publier, je le dis, un livre qui s'appelle Itinéraire du refus. Un livre où se croisent, c'est autobiographique, donc, où se croisent, le personnel, l'intime, avec, donc, l'histoire et un parcours politique. Un livre qu'on peut bien sûr trouver à la librairie Publico. Lecture donc de ce texte, hein, puisque j'ai dit que j'allais le lire et le diffuser à ma façon, de Vinitia à Berlin contre les anarcho-militaristes et leur propagande de guerre. Une réponse aux critiques qui circulent contre la soirée de solidarité convulsismo en soutien au collectif Assemblaille qui s'est tenu le 2 août 2025 à Berlin. Le 2 août 2025, la soirée Convulsismo s'est déroulée à Berlin en soutien au collectif Assemblaille de Kharkov en Ukraine. À la fois groupe politique et diffuseur média, ce collectif dénonce la conscription forcée et rencontre des luttes sociales qui se déroulent dans le contexte de l'invasion et de l'occupation russe et de l'autoritarisme croissant de l'État ukrainien au nom de l'unité nationale. Convulsismo est un collectif festif qui se consacre à l'organisation de concerts de musique expérimentale électronique pour soutenir les groupes anti-guerre du monde entier face à la remilitarisation croissante en Europe. Le premier événement qu'il a organisé était un concert qui a permis de récolter des fonds pour New Profil, un réseau de soutien aux réfractaires à la guerre en Israël, les refusniks, récemment privés de financement par l'État allemand. Quelques mois plus tard, Convulsismo a été la cible d'une campagne de désinformation menée par le groupe Goodnight Imperial Pride, lui-même lié aux soi-disant solidarité collective. Selon un texte qui a circulé sur les réseaux sociaux quelques jours avant la fête, Assemblaille ne serait qu'en apparence un collectif anarchiste et anti-guerre qui dissimule son ambition de collaborer avec les forces d'occupation russes. Cela a entraîné une série d'annulations forçant Convulsismo à changer de lieu et à modifier une grande partie de sa programmation en l'espace de quelques jours. Heureusement, la fête a pu se dérouler sans problème grâce aux camarades et amis musiciens soutenant Assemblaille et son positionnement politique résolument antimilitariste et internationaliste. Voici la réponse que nous avons faite à cette campagne de menaces, d'intimidation et de calomnie dirigée contre nous. 1. Les guerres font rage partout dans le monde. Celles qui opposent officiellement les États russes et ukrainiens depuis 3 ans, et dans le Donbass depuis 2014, sert désormais d'accélérateur au réarmement européen. Depuis la mobilisation générale de 1914, l'Union sacrée a toujours été l'arme du pouvoir et des classes dirigeantes pour étouffer la révolte populaire et pour rassembler les classes subalternes sous son drapeau face à une nation rivale. Nous, Convulsismo, en tant qu'internationalistes et antimilitaristes, refusons de cautionner ce jeu de dupes macabre. De la même manière que nous avons soutenu les objecteurs de conscience israéliens par le passé, nous avons cette fois-ci collecté des fonds pour le collectif Assemblaille, basé à Kharkov, en Ukraine. Une ressource importante pour les pratiques de désertion et pour ceux qui organisent la solidarité au jour le jour contre la conscription forcée. Dans l'abattoir qu'est la guerre, nous sommes toujours du côté des déserteurs. 2. Une campagne de désinformation ridicule et lourde d'affirmations embrouillées a été menée contre Assemblaille, accusant le groupe d'être pro-russe. Tous ceux qui ont suivi leurs activités politiques et leurs publications savent ce qu'il en est. Ils ont critiqué l'invasion russe sans relâche. De plus, lorsque la guerre a éclaté, ils ont lancé une initiative pour soutenir les civils victimes des bombardements russes dans la région de Kharkov. Ce qu'ils refusent, en revanche, conformément à leur position internationaliste, c'est de s'engager dans l'armée ukrainienne, de défendre l'État ukrainien et sa classe dirigeante, ou de soutenir la politique meurtrière de la machine militaire à l'encontre de sa propre population. Ce faisant, ils ont toujours encouragé et prôné les désertions, les mutineries et les révoltes contre l'effort de guerre en Russie, en Biélorussie et dans les territoires occupés de l'Est de l'Ukraine et de la Crimée. L'affirmation 3. L'affirmation selon laquelle le véritable antimilitarisme se pratiquerait les armes à la main et sur la ligne de front, une pure invention orwellienne, revient à assurer à l'État un approvisionnement constant en chair à canon. Cette position était déjà difficilement défendable au début du conflit, mais apporter un soutien inconditionnel aux brigades se qualifiant d'anarchistes alors qu'elles sont depuis longtemps subordonnées à l'armée régulière ukrainienne paraît de plus en plus en décalage avec la situation actuelle. Contrairement à l'opinion qui semble faire consensus parmi une partie de la gauche et des anarchistes en Allemagne, nous tenons à souligner que les anarchistes et, plus largement, les tendances anti-autoritaires et révolutionnaires en Ukraine ne constituent pas un ensemble homogène. En s'appuyant sur l'image des soi-disant brigades anti-autoritaires, Goodnight Imperial Pride, Solidarité Collective et d'autres groupes tentent d'invisibiliser les initiatives anti-guerre. Ce faisant, ils font le jeu de l'État ukrainien et présentent ces initiatives comme pro-russes, alors même qu'Assemblaille et d'autres internationalistes soutiennent les déserteurs des deux côtés de la ligne de front. 4. Alors que ces groupes prônent un anarchisme patriotique, l'État pour lequel ils tuent, et meurt, mène une guerre contre sa propre population. Dès le début du conflit, la prétendue unité nationale s'est appuyée sur des campagnes de conscription forcée. En effet, tant en Russie qu'en Ukraine, il est de plus en plus difficile de trouver des volontaires pour le massacre. La désertion est désormais un phénomène de masse. Les classes laborieuses ukrainiennes et russes savent bien qu'elles n'ont rien à gagner dans cette guerre. Et de fait, la veille de la fête de soutien, des centaines de manifestants ont bravé le couvre-feu pendant la nuit pour se rassembler à Vinnytsia en réclamant la libération des hommes détenus par les services de la conscription au motif qu'ils auraient voulu éviter l'enrôlement dans l'armée. Les manifestants ont fait éruption dans le stade de la ville où les détenus étaient incarcérés et ont essuyé les gaz lacrymogènes et de nombreuses arrestations. Assemblaï est l'un des rares médias anarchistes à rendre compte des soulèvements, mutineries, révoltes et grèves engagées contre la conscription forcée, alors que l'État ukrainien a de plus en plus de mal à convaincre sa population de participer à l'effort de guerre. 5. Ce scénario macabre est le produit, mais aussi le moteur, d'une militarisation accélérée, notamment en Europe. Sur fond de crise profonde du capitalisme et d'escalade des conflits entre puissances rivales, le monde n'a d'autre horizon à offrir que l'industrie de mort qu'est la guerre. En Allemagne, cela se traduit non seulement par un débat sur la réintroduction du service militaire obligatoire, mais surtout par l'augmentation des dépenses militaires, contrairement aux coupes budgétaires dans les services sociaux et l'éducation, une forme d'austérité militarisée et généralisée. Partout en Europe, cette escalade de la violence s'exprime également par le renforcement des frontières nationales et, à l'intérieur des États, par une hostilité envers les immigrés et la persécution raciste des minorités, en particulier arabes et musulmanes. 6. Dans un tel contexte, ni le soutien à l'Occident sous prétexte qu'il serait démocratique, ni le soutien au régime russe ou à tout autre régime sous prétexte qu'il s'opposerait à l'impérialisme américain ne peuvent nous mener à l'émancipation. Face à la guerre en cours en Europe, nous affirmons qu'il nous faut renforcer la solidarité, par exemple avec les internationalistes d'Ukraine, tels que le collectif Assemblaï, et les luttes là où nous sommes, en particulier lorsque les États dans lesquels nous résidons sont directement ou indirectement impliqués dans le conflit militaire. Il n'est pas question de soutenir un camp ou l'autre. C'est là le travail des nationalistes de tout poil. Qu'ils soient anarchistes de gauche ou de droite, il s'agit plutôt de combattre l'industrie de mort, ceux qui en tirent profit et le monde qui la produit, ici et maintenant. Solidarité avec les déserteurs des deux côtés de la ligne de front, liberté pour tous les réfractaires emprisonnés, contre la guerre, son industrie de mort et ses profiteurs, pour une vie qui vaille la peine d'être vécue, Convulsismo et leurs amis, août 2025, Berlin. Voilà, j'ai tenu à vous faire partager ce texte. Je pense qu'on pourra le trouver, ou peut-être qu'on le trouve déjà sur Internet. Je demanderai à Nicolas, donc co-animateur de l'émission lundi matin, s'il peut le mettre sur le site anarchiste.info dans la soirée. Voilà. Donc, je reviendrai sur certains aspects de ce texte au cours de ce que je vais évoquer donc après. Aujourd'hui, si vous avez ouvert ce matin des quotidiens ou écouté les médias, comme ils le font déjà depuis des heures et des jours, donc tous ces médias ont les yeux rivés donc vers la Maison Blanche où aujourd'hui les dirigeants européens, aux côtés de Zelensky, donc le président de l'Ukraine, eh bien vont apparemment faire donc de grandes déclarations historiques, c'est ce qu'on nous annonce. Mais on va se tenir loin de la Maison Blanche pour voir la guerre, non pas du côté des dirigeants qui font les guerres ou qui prétendent s'opposer donc à la guerre en réarmement, en réarmant donc l'Europe. La vieille formule, hein, elle n'a pas changé, elle est toujours vraie. Hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais on va plutôt se positionner, parce que c'est là où se placent toujours les anarchistes, bien évidemment, du côté tout simplement de la population, donc une population qui est otage donc de la politique des États. À travers ce texte que je vous ai lu, eh bien, on le voit, le mouvement anarchiste est divisé, pas forcément en Allemagne ou en Ukraine, ou encore en France, il est divisé partout sur cette question-là. Rappelez-vous, j'ai fait, et je suis revenu à de nombreuses reprises dans cette émission-là, sur comment, eh bien, à l'annonce et au moment où la guerre de 1914 semblait inévitable, comment le mouvement social ouvrier révolutionnaire et une partie du mouvement anarchiste donc a volé en éclats et succombé aux appels donc à l'unité. Et on rejoint donc le camp de ce qu'on appelait donc les alliés. On peut retrouver cela, par exemple, dans le livre qui est paru aux éditions Luxe, article politique de Malatesta, où on peut retrouver donc eh bien cette opposition donc symbolisée à l'époque par l'anarchiste italien Malatesta et Kropotkin, donc qui se sont opposés donc sur cette question-là. Le premier restant fidèle à ses conceptions antimilitaristes, anarchistes et internationalistes, Kropotkin, quant à lui, rejoignant donc le camp des alliés contre celui de la barbarie. Et puis on a retrouvé aussi, et là aussi je l'avais évoqué dans l'émission, au moment de la guerre donc en Yougoslavie, où alors que l'OTAN bombardait la Yougoslavie, eh bien, le mouvement anarchiste était fort divisé, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la question. Mais là aussi, j'en avais parlé assez longuement dans plusieurs émissions. Donc, cette division n'est pas nouvelle. On l'a vu, elle a lieu aujourd'hui, donc en 2025. Elle a eu lieu au moment de la guerre, je le disais, en Yougoslavie. Elle a eu lieu aussi au moment de la guerre de 1914. Donc, ce qui est assez étrange dans tout ça, c'est que l'anarchisme et donc l'antimilitarisme et l'internationalisme et la solidarité contre la barbarie que représente la guerre sont des convictions normalement éthiques, morales, politiques, philosophiques qui devraient être fortement ancrées dans la personne anarchiste, je pense. Et ça devrait même être quelque chose de fondamental, quelque chose qu'on ne peut pas attaquer, quelque chose d'inébranlable. Or, on le voit, c'est différent, à savoir que lorsqu'une guerre a lieu, lorsqu'une guerre se profile, eh bien, cette conviction au nom d'un réalisme, eh bien, vole en éclats. Quand cette conviction se heurte à une situation qui, au contraire, exigerait la mise en pratique de ces convictions-là, que cette conviction-là pourrait s'exprimer en idée et en acte, eh bien, on voit que cet édifice fait d'idées, de convictions, d'éthique, de morale et d'analyse, eh bien, vole en éclats ou parfois se lézarde, mais en tout cas ne résiste pas donc à la pression des événements. Un petit peu comme si les idées n'avaient de valeur que séparées de la réalité. Et je pense que c'est un point fondamental. Dénoncer que, eh bien, en temps de guerre ou à l'approche d'une guerre, eh bien, les convictions, je le disais, antimilitaristes, pacifistes, anarchistes, eh bien, ne résistent pas. Au moins chez un certain nombre d'anarchistes, d'autres, bien sûr, et je pense qu'ils sont la grande majorité, bien évidemment, eh bien, restent fidèles à ce qui les fonde comme individus, comme révolutionnaires, comme anarchistes, comme internationalistes, comme antimilitaristes, et au contraire, vont tenter de conjuguer cette conviction qui est en eux avec une situation concrète qu'il faut affronter, à savoir une menace de guerre ou la guerre, quand elle est là, comme c'est le cas aujourd'hui donc en Europe, à travers donc ce conflit entre qui a éclaté donc entre la Russie et l'Ukraine après que la Russie ait donc envahi en partie au moins l'Ukraine. Donc je pense que ce qui se passe, c'est qu'il est très très dur en réalité, et dans plein de domaines différents en réalité, d'échapper au cadre très très étroit que nous impose ou nous propose le capitalisme et les États. Les États, notamment concernant la question de la guerre, lorsqu'ils posent des questions, eh bien, ces questions qu'ils posent induisent des réponses. Et ces réponses ne peuvent être que des mauvaises réponses. On nous dit il y a un agresseur et il y a un agressé. Et donc, quand on est agressé, on doit bien se défendre. Dans toutes les guerres, en tout lieu et en toutes circonstances, à toutes les époques, eh bien, il y a toujours eu un agresseur. Il y a toujours eu un État pour déclarer la guerre à un autre. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais lorsqu'on nous pose la question de cette façon-là, eh bien, la réponse étatique est contenu dans la question étatique. Et il y a comme une espèce d'impossibilité chez certains, chez certaines, de sortir de ce cadre étroit que nous propose l'État, que nous proposent les États. Or, les anarchistes, je pense, eux, ce qu'ils veulent pour cette question de la guerre, comme pour plein d'autres questions d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils sont révolutionnaires, eh bien, ce cadre, ils veulent complètement l'exploser et invitent à penser et agir en dehors de ce cadre qui a été donc fixé, établi, défini, idéologisé, pardon, par les États. Et je dis que ça peut être dans bien des domaines. Il y a quelques années, gare d'Austerlitz, il y avait une distribution de tracts, et là, ça ne concernait pas la guerre, hein, donc un tract ou un syndicat, je crois que c'était la CGT, si je ne me trompe pas, eh bien, appelait le gouvernement à relancer la croissance pour créer des emplois. Et ce tract-là s'inscrivait complètement dans la logique capitaliste, c'est-à-dire celui de la croissance comme moteur de l'économie et comme créatif d'emploi. Et là, on est, là encore, dans le cadre étroit de la logique du capitalisme, dans la logique du patronat, dans la logique de l'économie. Et je pense que quand on est anarchiste, ou même si on est simplement partisan de la lutte des classes, qu'on reconnaît celle-ci, eh bien, on ne reste pas enfermé, prisonnier de cette logique, là aussi, où quand on nous parle croissance, création d'emplois, et qu'on fait appel, qui plus est, à l'État pour relancer la croissance, eh bien, on est prisonnier de l'État, on est prisonnier du capitalisme, et on ne consiste pas, et on ne va pas dans le sens de libérer les gens de l'exploitation salariale, mais au contraire de continuer à les y enfermer, et qui plus est en demandant l'aumône à l'État de relancer l'économie, la croissance, pour créer des emplois. Donc il faut donc effectivement sortir de ce cadre. Et quand on sort de ce cadre, quand on fait exploser tous les cadres qui nous sont imposés, eh bien, on fait alors On ouvre alors une porte, une grande porte, qui, dans un premier temps, peut être la porte de la pensée qui est plus assujettie aux questions-réponses que nous propose l'État, mais la pensée libre, la pensée qui peut aller dans le sens du dépassement de ce qui semblait acquis, pour aller au-delà, pour appeler de nouvelles questions qui amèneront de nouvelles réponses, des réponses qui seront libératrices, qui seront émancipatrices, qui seront révolutionnaires, qui porteront en elles le désir réel de changer le monde. Donc, faire éclater donc ce cadre, ces cadres qui nous enferment, qui nous oppriment, eh bien, est important et primordial, parce que si on continue de réfléchir, de penser avec l'État et le capitalisme, eh bien, on s'en sortira jamais. J'énonçais aussi tout à l'heure ce consultant, comme on dit, ou cet éditorialiste sur un plateau télé, je le disais tout à l'heure, qui nous disait, un monsieur très propre sur lui, qui parlait posément, qui parlait calmement, en costume cravate, bien peigné, sans doute quelqu'un de bien élevé, etc., et qui nous disait donc ceci, que, je le disais tout à l'heure, pour alimenter la guerre, il fallait un carburant. Et pour lui, le carburant, c'était du matériel militaire, de l'armement, évidemment, mais disait-il aussi un carburant humain. Et en l'écoutant, je repensais à une bande dessinée de Tardy, Jacques Tardy, hein, le dessinateur de BD, dont on connaît l'obsession pour la guerre de 14-18, et quand je parle d'obsession, c'est pas évidemment en termes péjoratifs, ni négatifs, mais parce que, à travers de nombreuses bandes dessinées, pour ceux qui le suivent, eh bien, la guerre de 14-18 a été abordée bien souvent. Et là, je repensais à un album, c'est j'ai oublié le titre, il y a le mot salamandre dedans, le syndrome de la salamandre peut-être, bon je me trompe, enfin les amateurs de Tardy qui sont à l'écoute corrigeront, hein, bien évidemment, enfin vous voyez je pense de quel album je parle, et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas grave non plus, mais à un moment donné il y a une case. Et c'est cette raison-là, cette case de cette BD avec cette bulle et du texte dedans, qui m'a rappelé effectivement cet homme costardé, cravaté et bien peigné, qui parlait donc de l'humain comme carburant nécessaire à la guerre. Et voilà ce qu'elle dit, cette petite bulle. On voit un petit personnage avec son petit drapeau tricolore à la main, qui termine d'ailleurs en disant « ta ta ta, soin 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 », genre ce qu'on s'amuse, en quelque sorte, même si c'est cynique, bien évidemment. Le lundi 11 novembre 1918 à 11h, l'armistice était signé dans un wagon de la Première Guerre mondiale qui prenait fin. Bilan. 10 millions de morts de presque toutes les nations du globe. 750 000 tonnes de chair et d'os, 13 tonnes de cervelle, 47 500 000 litres de sang et 46 millions d'années de vie qui ne seront jamais vécues. Ce qui est une façon cruelle, effectivement, de faire de la comptabilité, mais qui n'en révèle pas moins comment la guerre mérite son nom de boucherie. La guerre de 14 en fut une. La guerre qui a lieu actuellement sur le sol d'Ukraine en est une autre, mais on y reviendra donc tout à l'heure. Il est bientôt midi. On va écouter un petit peu de musique et je crois qu'on va rester avec peut-être avec Cellulix, parce que j'aime bien ce groupe-là. Et donc, on va écouter Cellulix. Tout à l'heure, on a écouté Trépalium. Et puis là, on va écouter un autre titre qui s'appelle donc directive donc 4, hein, je crois que c'est le titre, hein, oui, c'est ça. Hein, donc directive 4, donc cellule X, c'est Radio Libertaire, l'émission lundi matin. À tout de suite.
Sans défaut d'énonciation, pas de dérogation, ni de passage par l'ascension de ma nation. Une émanation de gaz du fond de la cave de l'Élysée vient exploser sur ta tatine, c'est dès le QG de la droite. Va pas apprécier, il lâche le fric pour protéger le PDG de l'État français, notre morale pour stigmatiser. Une fois de plus, sera français, ils ont voulu nous faire taire, récupérer notre musique et faire leurs affaires. Et combien se sont vendus pour des billets bleus roses ouverts. Aujourd'hui, on la récupère, pas de la branlette comme le clash. Sur terrain égocentrique, mais une arbalète aux flèches en flammes, traquant, brûlant des injustices d'un système répressif. Un coup d'attaque liberticide, ils feront du rap un mode d'expression libertaire. On répondra pas sans temps, par du verbacile à vos attaques militaires pour vendre votre mère. On veut plus d'attaques économiques, on veut plus de bombes médiatiques. Sinon, une guérilla sanglante éclatera sur vos vitres. On veut plus de votre marchandisation de la musique. Sinon, une guérilla sonore fera exploser vos vitres. Fera exploser vos vitres. Fera exploser vos vitres. Sur la droite sécuritaire, je balance ces mots sur le MFSR. Je balance ces mots pour foutre feu au ministère. Je balance ces mots pour mener les majors au cimetière. Je balance ces mots sur les vendus d'aujourd'hui et d'hier. Je balance ces mots pour que la conscience de classe renaisse. Au milieu de toute cette misère, je balance ces mots comme une grenade incendiaire. Comme une grenade incendiaire. Comme une grenade incendiaire. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire pour foutre feu au ministère. Comme une grenade incendiaire.
Voilà, on a écouté donc Calavera à l'instant. J'ai un peu inversé les disques hein, que je voulais vous proposer. J'avais annoncé donc Cellulix. On va les écouter hein, donc tout de suite.
Consomme, consomme, strictement, oublie. Babylone.
Entre Faubach, Styrin, Bérenne, là-bas au bout de la Lorraine, tout contre les reins de l'Allemagne, au lac du Schlamm, chante mon âme. Si j'ai une voix comme une galerie, c'est que mes paroles passent toujours là, et mes chansons jamais Paris, car Metz sur scène, je ne connais pas. Qui veulent qu'on la ferme et entre l'amour qui sort du puits. Hey, on tient debout comme, on tient debout comme un voyage droit. On tient debout comme, on tient debout comme un voyage droit. Toi aussi, Lorraine. Toi aussi, hey.
les étrangers ont écrit sur tes murs. La Lorraine ne crèvera pas. Des étrangers ont écrit sur tes murs. La Lorraine ne crèvera pas. Tu tiens debout comme un voyage droit. 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 D'où je t'ai.
Ah mince, pardon. Alors, j'ai compris pourquoi on m'appelait. C'est que j'avais malencontreusement appuyé mon coude sur un mauvais bouton. Voilà, donc là, c'est bon, hein, je suis à l'antenne. Et donc, je vais un petit peu donc reprendre ce que j'étais donc en train de dire. Et donc désolé pour ce blanc. Je reviens sur cette notion de carburant humain, et je disais donc que sur le sol d'Ukraine, eh bien, ce carburant humain était consommé sans modération, en quelque sorte, et je vous livrerai donc des chiffres, notamment sur cet aspect-là. Donc c'est tiré de Courrier International, donc le magazine, hein, Courrier International, qui titre « Guerre en Ukraine », pour cet article, donc « Guerre en Ukraine, une étude estime à 1,4 million le nombre de soldats tués ou blessés ». Le Center for Strategic and International Studies a publié mardi 3 juin un nouveau bilan des morts et blessés parmi les combattants russes et ukrainiens. Sans chiffre officiel, le think tank américain estime le nombre de victimes depuis le 24 février 2022 à 1 million côté russe, dont 250 000 morts, et 400 000 côté ukrainien, dont 60 à 100 000 morts. Près de 1 million de soldats russes ont été tués ou blessés depuis que Vladimir Poutine a déclenché son invasion de l'Ukraine en février 2022. Selon une nouvelle étude rendue publique mardi 3 juin, un bilan sidérant commente The New York Times, qui passe en revue les chiffres établis donc par ce think tank, donc le CSIS. Outre le million de victimes côté russe, dont peut-être 250 000 morts, le think tank américain indique que près de 400 000 soldats ukrainiens ont également été blessés ou ont perdu la vie depuis le début de la guerre. L'étude estime le nombre de morts entre 60 et 100 000. Au total, donc, la guerre a fait 1,4 million de victimes parmi les combattants des deux côtés. Un chiffre à prendre évidemment avec précaution. Moscou sous-estimant son nombre de morts et de blessés. Kiev ne communiquant aucun bilan officiel, rappelle le quotidien américain. L'étude du CSIS s'appuie sur des estimations faites entre autres par les gouvernements américains et britanniques. Alors on est en période de guerre. La propagande est une arme de guerre. Comme je le disais la semaine dernière, l'opinion, ça se fabrique. Et c'est vrai que concernant ces chiffres, tant côté ukrainien que russe, eh bien, on communique toujours dans le même sens, comme nous le rappelait un des 10 principes élémentaires de propagande de guerre. C'est que, en résumé, eh bien, on dit toujours que on a moins de morts que son adversaire. Que son ennemi. Et donc, ce chiffre effrayant, ensuite, 1000 blessés ou morts russes chaque jour. Citant l'état-major des forces armées ukrainiennes, le média Ukrinform évoque des chiffres similaires côté russe, 991 820 précisément, entre le 24 février 2022 et le 4 juin 2025, et 1020 soldats blessés ou tués ces 24 dernières heures. Juin 2025 est en train de devenir un mois catastrophique pour les forces armées russes, abonde The Economist. Non seulement l'Ukraine a mené des attaques de drones contre certains des aérodromes militaires de la Russie, détruisant une bonne partie de sa flotte de bombardiers, et dit avoir saboté le mardi 3 juin le pont de Crimée, mais aussi, souligne l'hebdomadaire britannique, avant la fin du mois, la Russie enregistrera probablement sa millionième perte, si l'on se fonde sur la tendance actuelle d'environ 1000 soldats, tués ou blessés par jour. Une hécatombe, reprend le New York Times, pour gagner 50 mètres par jour par endroit. C'est plus lent encore que l'avancée extrêmement coûteuse dans la boue des troupes britanniques et françaises dans la Somme pendant la Première Guerre mondiale. Depuis janvier 2024, selon le CSIS, la Russie a conquis moins de 1% du territoire ukrainien. La campagne militaire de Russie en Ukraine est en passe de devenir l'une des offensives les plus lentes de l'histoire moderne, souligne Seth J. Jones, l'un des auteurs de l'étude. Elle a fait plus d'un million de victimes. Les conquêtes territoriales sont infimes et les pertes matérielles sont gigantesques. Donc, on le voit, ce carburant humain, eh bien, est quelque chose d'énorme, hein, comme on l'a vu dans la petite bulle de la BD de Tardy. Quand on convertit tout cela en tonnes de chair, en tonnes de cervelle, en litres de sang et millions d'années de vie jamais vécues, eh bien, ça donne le vertige sur ce qu'est la réalité de la guerre. Donc, je le disais, sans carburant humain, pas de guerre. Je le disais aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on le sait, la conscription est obligatoire. Les déserteurs, les insoumis des deux côtés sont pourchassés, emprisonnés, embastillés, et leurs familles subissent les pires choses qui soient, en termes d'intimidation, notamment, de menaces. Donc c'est une situation qui n'est pas facile. Et pourtant, tant du côté russe que du côté ukrainien, eh bien, des jeunes gens, et moins jeunes gens d'ailleurs, eh bien, font le choix de partir, de refuser la guerre, de ne pas vouloir mourir, de ne pas vouloir tuer aussi. Et rendre concret ce choix, eh bien, en s'insoumettant, en désertant et en fuyant, pour nombre d'entre eux, leur pays. Du moins pour ceux qui le peuvent, puisque une société en guerre n'en reste pas moins une société de classe, et que ceux qui peuvent fuir sont ceux qui en ont les moyens, souvent. Donc la guerre en Ukraine, c'est également un autre chiffre qui doit être réactualisé, parce que celui que j'ai trouvé date d'octobre 2022, et qui dit que en Ukraine, eh bien, 700 000 hommes ont fui la Russie depuis le début de la mobilisation partielle. Ce chiffre est-il crédible, questionne donc cette info issue donc du site France Info. C'est une estimation de l'édition russe du magazine Forbes. Alors que l'armée russe subit de sérieux revers sur le terrain de la guerre en Ukraine, le pays connaît une fuite importante des hommes depuis l'annonce de la mobilisation partielle. Cette estimation provient de l'édition russe du magazine Forbes. Donc, selon la revue, 700 000 Russes ont déjà quitté le pays depuis l'annonce de la mobilisation le 21 septembre. Le magazine s'appuie sur deux sources anonymes au Kremlin, l'une qui évoque 1 million de départs et l'autre qui parle plutôt de 600 à 700 000 Russes concernés. C'est ce second chiffre que retient plutôt le média. Mais quand je lis que c'est des sources anonymes au Kremlin, je me dis que ce chiffre peut être aussi minorisé, et on comprendra pourquoi, donc bien évidemment. Il y a de cela un an, c'était à la librairie Publico, et j'avais rencontré un groupe de personnes qui venaient de Russie et qui étaient accompagnées par un camarade français. Et donc c'était donc des Russes, des jeunes hommes qui avaient donc fui la Russie. Et donc c'était vrai que beaucoup d'entre eux étaient des étudiants. Donc on peut supposer, de par leur qualité d'étudiant, qu'ils venaient d'un milieu social particulier, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, une société en guerre n'en reste pas moins une société de classe, mais en tout cas ils avaient fait ce choix estimable et plus qu'estimable, donc de refuser la guerre et donc de fuir leur pays. Ils étaient accompagnés par une femme beaucoup plus âgée, qui, elle, s'était engagée à Moscou contre la guerre et l'avait payée de la façon suivante, à savoir menacée. Et donc, pour fuir la répression, avait choisi donc l'exil et elle était là en France. Heureusement pour elle, comme pour les jeunes qui l'accompagnaient, ils n'étaient pas isolés. En France, ils étaient accueillis, hébergés. Donc, de ce point de vue-là, c'était déjà quelque chose de bien. Mais ce qu'ils me disaient tous, et ce qui était particulièrement émouvant, mais je vous l'avais déjà relaté, c'est qu'ils avaient donc fui la Russie et tous étaient habités par les mêmes questions, questions essentielles que se pose tout exilé, à savoir, est-ce que je vais revoir mes amis? Est-ce que je vais revoir ma famille? Est-ce que je vais revoir mon pays? Quel est mon avenir maintenant? Cette femme, beaucoup plus âgée que ces jeunes gens, elle me disait qu'elle avait tout abandonné là-bas. Amis, famille, maison, etc. Et vu son âge, elle me disait, vais-je revoir un jour la Russie? Et voilà, c'est le statut des exilés, des exilés de tout pays, de toute nation. Là, on parle de la Russie, mais on pourrait parler aussi de ceux et celles qu'on appelle les migrants, et qui eux aussi fuient la guerre, la misère, la famine dans leur pays, et qui abandonnent tout dans l'espoir d'une vie, sinon meilleure, au moins où leur vie n'est pas en péril. Donc, je reprends l'article et referme donc cette parenthèse-là. L'article qui dit donc, à propos de ces chiffres, une estimation qui semble crédible quand on sait déjà que le seul Kazakhstan affirme que 200 000 Russes sont entrés dans son territoire en une dizaine de jours seulement. Le même nombre est évoqué pour la Géorgie. Dans l'Union européenne, le chiffre mis en avant est de 66 000 entrées en une semaine. Ces 700 000 départs viennent s'ajouter à une première vague, celle des Russes qui avaient fui le pays après le début de la guerre le 24 février. C'est très compliqué, nous dit l'article, d'obtenir des données fiables du côté de Moscou. Rostat, l'organisme officiel des statistiques, parlait de son côté de 200 000 départs sur les 6 premiers mois de l'année. C'est donc probablement beaucoup plus en réalité. Ce chiffre de 700 000 personnes représente 0,5% de la population russe. Présenté de la sorte, cela n'a pas l'air énorme. Effectivement, des centaines de milliers de personnes, ça fait beaucoup de monde. Rapporté à la population russe, 0,5%, ça fait effectivement, en termes de pourcentage, très peu de monde. Et il est donc difficile de parler d'un exode massif. Ceci dit, si l'on considère que les immigrés sont souvent jeunes, en âge de travailler et souvent formés, ces départs en cascade peuvent devenir problématiques pour le pays. Une étude sortie récemment estimait que 30% des entreprises informatiques et technologiques russes avaient quitté la Russie. Néanmoins, beaucoup de ces travailleurs continuent à travailler à distance depuis l'étranger. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont été les premiers et les plus nombreux à partir dans ce secteur-là. Voilà, donc extrait donc de cet article-là. Donc fuir la guerre. Je dirais que c'est le réflexe le plus humain qui soit, qu'on soit russe, qu'on soit ukrainien, qu'on soit israélien, qu'on soit biélorusse, ou où que ce soit, où la guerre est là. Alors, concernant la Russie, je le disais à travers la lecture de l'article, 0,5%, c'est pas énorme. Quoique les jeunes Russes que j'évoquais, avec qui j'avais discuté, donc il y a de cela plus d'un an, peut-être même deux ans si ça se trouve, me disaient à l'époque que, d'après eux, déjà à l'époque, c'était peut-être beaucoup plus d'un million de personnes qu'auraient quitté donc la Russie. Donc effectivement, ces chiffres sont à considérer. Et en tout cas, sont discutables de fait. Mais bon, tenons-nous-en à 700 000, par exemple, jeunes russes qu'on fuit la guerre, 0,5% de la population. Ça fait peu de monde, en réalité. Les refusniks israéliens, par exemple, sont est une poignée. Les déserteurs ukrainiens, même si ce mouvement est important et même s'il ne cesse de croître et de se développer dans la société ukrainienne, sont, en termes de pourcentage, si on devait raisonner en termes de pourcentage, sont relativement peu au regard de la société ukrainienne, bien sûr. Mais pourtant, tous ces gens-là, qu'on les appelle refusniks, qu'on les appelle déserteurs, qu'on les appelle insoumis, qu'on les appelle objecteurs de conscience, eh bien, sont, pour moi, eh bien, l'espoir. Ils sont la solution, ils sont la réponse, si tant est qu'on se pose la bonne question. Ils sont effectivement l'espoir, celles et ceux qui refusent d'être le carburant humain de la guerre. Et ils sont effectivement pas beaucoup. Mais là encore, on nous place toujours devant une situation, c'est ce que je disais tout à l'heure, une situation particulière, des données particulières qui appellent donc des réponses, mais des réponses qui sont dictées par une situation imposée par un conflit entre États et auquel on va faire que le carburant humain nécessaire à la guerre soit nourri, alimenté au nationalisme, au patriotisme, au militarisme, à la notion de peuple, de nation, de patrie, etc., pour donc l'envoyer sur les champs de bataille. Et je l'ai dit, le champ de bataille russo-ukrainien est un grand consommateur de ce carburant, comme l'avait été la guerre de 14-18, comme le sont beaucoup de guerres d'ailleurs. Donc ces hommes, puisque c'est beaucoup d'hommes qui fuient, mais pas seulement, je le disais, sont porteurs effectivement d'un espoir, parce que si ce mouvement se généralisait, et il s'accroît, je le disais, considérablement, notamment en Ukraine, c'est quelque chose d'important dans la société. Les gens ne veulent plus aller mourir sur le front, ils ne veulent plus aller faire la guerre. C'est un mouvement relativement important. Il existe aussi en Russie. Et je dis important et je relativise le mot important pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. Ça reste une faible proportion malgré tout de la population. Mais ces gens-là qui représentent des dizaines, des centaines de milliers ou peut-être plus d'un million de personnes, ne sont pas nécessairement animé par une pensée anarchiste, par une pensée antimilitariste, ne développe pas une quelconque critique de l'État, une critique du capitalisme. Ce sont tout simplement des individus qui avaient une vie avant et après la guerre. Et j'ai en mémoire un documentaire que j'avais vu sur une chaîne d'info, où on voyait dans une ville ukrainienne, donc dévastée par les bombardements russes, un homme qui était là, qui errait au milieu des décombres et qui était interviewé donc par un journaliste. Et il racontait au milieu de ces décombres. Il disait, là il y avait la petite place où j'aimais bien m'asseoir sur un banc. Là il y avait un jardin. Là il y avait une aire de jeu pour les enfants. Là il y avait une école. Et il racontait tout cela, sa vie d'avant la guerre, donc, et maintenant il errait dans ces décombres, dans cette ville totalement dévastée. Cet homme, à quoi aspirait-il? Je pense, bien que ne le connaissant pas, l'ayant simplement entendu pendant quelques instants, interviewé par un journaliste, je peux cependant supposer, comme je disais, qu'il n'aspirait pas à l'anarchie, qu'il n'aspirait pas, ou en tout cas que la critique du capitalisme et de l'État n'était pas son affaire, quoique, si on lui avait posé la question, peut-être que oui. Non, il pensait à sa vie, d'avant, tout simplement. Et ce à quoi il aspirait, c'était retrouver sa vie d'avant, tout simplement. Et pour un anarchiste, eh bien, la vie d'avant, même si elle est préférable à la vie pendant la guerre et à cette dévastation qui est la guerre, l'anarchiste appelle une autre vie, appelle une autre société, débarrassée des états du capitalisme, de toute forme de domination, une société égalitaire. Et en même temps, dans ce genre de situation, eh bien, pour ma part, je me sens proche tout simplement de celui qui veut fuir la guerre, de celui qui, d'un point de vue simplement humain, déplore ce qu'est la réalité de la guerre. À ce moment-là, même si nos attentes de l'avenir ne sont pas les mêmes, je me sens proche de lui, même, je le disais, même si son espoir à lui, c'est retrouver la vie d'avant, celle où il était exploité au travail, celle où il était peut-être mal logé, vivait dans la précarité. Mais en tout cas, il aspire à cela. Et je pense que de ce constat que peuvent faire les individus de la guerre, quand ils le font dans la souffrance, dans le sang, dans leur chair meurtrie, dans un environnement où ils ont perdu des proches, où leur quartier, leur village, leur ville sont détruites, ne n'est pas forcément une critique qui va être une critique radicale de l'État et du capital. Peut-être, je le pense, une formulation d'une aspiration pacifiste. Reste, et c'est ce que j'exprimais, que pour les anarchistes qui sont contre la guerre, contre toutes les guerres, la paix du capitalisme n'est pas la paix à laquelle nous aspirons, bien évidemment. Mais de cette situation-là, eh bien, peut naître aussi, effectivement, parfois, eh bien, des prises de conscience. J'évoquais dans des émissions comment toutes et tous, au cours de notre vie, parfois, c'est des micro-événements auxquels on assiste, auxquels on est confronté, où on va ressentir l'injustice, la violence de cette société-là, qui vont nous permettre de dérouler tout un fil de questionnement, de réflexion, d'analyse, qui vont nous amener loin, et même beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait, à savoir la remise en cause de ce qui paraît indépassable, à savoir l'État et le capitalisme. Ainsi, quand j'étais à l'époque en France confronté à la conscription obligatoire, le service militaire obligatoire, ce qui nous amenait, là aussi, on était une minorité de jeunes, bien évidemment, à être insoumis, objecteurs ou déserteurs, ce qui nous amenait souvent, au moins pour un certain nombre d'entre nous, vers le désir de refuser l'armée, le service militaire, c'était quelque chose d'assez viscéral, de pas élaboré, mais à travers ce refus, cette brèche qui était ouverte était une brèche qui amena un certain nombre d'entre nous, pas tous bien évidemment, mais quand même un certain nombre d'entre nous à ouvrir la porte de la pensée anarchiste, tout simplement en déroulant tout un certain nombre de questions. Qu'est-ce que la guerre? Qui fait la guerre? Qui déclare les guerres? Qui subit les guerres? Pourquoi? Et après, on réfléchit encore plus à la question de l'impérialisme, par exemple, à la question de l'industrie de l'armement, de cette industrie de mort, et tout un tas de questions comme ça qui, tout doucement, ont amené un certain nombre de nous vers l'anarchisme. Donc, je ne vais pas dire qu'il faut une bonne guerre pour que les gens commencent à réfléchir, mais effectivement, c'est un contexte de situation dramatique dans lequel un certain nombre de personnes peuvent peut-être pousser cette porte et s'ouvrir à des réflexions nouvelles. On va faire un petite pause musicale, tiens, et puis on va écouter... Qu'est-ce qu'on va écouter ? Ah ben on va écouter un grand classique de la chanson antimilitariste, reprise par David Vincent et ses mutants. C'est la chanson de Crown, bien évidemment.
Notre place est si utile que sans nous on prend la pile, et sans les finis on en a assez, personne ne veut plus marcher, et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'en est fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crown, sur le plateau, qu'on a laissé sa peau, car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied venu pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'en est fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crown, sur le plateau, sur les grands boulevards, tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour remplir les poches de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, payez la vôtre.
émission, à très 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 bientôt. Merci pour tout.
Voilà, David Vincent et ses mutants. Il est 1h20, c'est Radio Libertaire. Et l'émission, c'est lundi matin. Alors, comme quoi, il est dur d'échapper au conditionnement en général. Et là, je vais relater un conditionnement qui était le mien, en réalité. C'était au tout début de l'attaque lancée donc contre l'Ukraine par la Russie. Et une initiative se fait jour, initiative plutôt généreuse d'ailleurs, puisque c'était un appel lancé donc à des réfractaires en France, français, donc de signer une pétition de soutien aux déserteurs russes. Et donc cette pétition est signée par pas mal de monde, des anciens déserteurs insoumis de la guerre d'Algérie, jusqu'à des plus jeunes comme moi qui avaient refusé la conscription. Sylvie, d'ailleurs, de l'émission, me dit « Mais pourquoi pas les déserteurs ukrainiens ?» Et là, je me suis dit « Mais je suis victime d'un conditionnement. » C'est-à-dire que spontanément, j'ai pensé en termes de pays agresseur, pays agressé, et je soutiens donc les déserteurs du pays agresseur. Et je me suis dit, et j'ai réfléchi à partir de ce moment-là, et je me suis dit, le conditionnement est quelque chose d'extraordinaire. Comment est-ce qu'on est conditionné, comme je l'exprimais tout à l'heure, et je vais pas tout redévelopper, comment on est conditionné par des mauvaises questions qui appellent de mauvaises réponses, même si l'intention est plus que louable, là, en l'occurrence. Et c'est vrai qu'il y a, toujours eu de grosses déstabilisations lorsque la guerre éclate ou menace donc d'éclater. On a vu dès 2022, quand l'invasion russe de l'Ukraine a commencé, que effectivement les médias occidentaux pouvaient faire des articles sur les réfractaires russes à l'armée. Les réfractaires ukrainiens, quant à eux, n'existaient pas. Mais vraiment n'existait pas. Et c'est pour cette raison que j'avais fait deux émissions sur le sujet. J'étais pas seul, hein, c'était avec Natacha à l'époque. À partir du site DDT 21. Donc notez bien ce site, hein, c'est DDT 21. Dedans vous trouverez des articles signés de Tristan Léoni qui relate cette autre Ukraine, pas cette Ukraine qu'on nous présente à la télé, cette Ukraine qui défend nos valeurs, qui défend l'Europe, qui défend la démocratie, etc. Mais cette Ukraine des déserteurs, c'est-à-dire de ces hommes qui par dizaines de milliers refusent la guerre, de toute cette partie de la société qui se demande comment fuir la guerre. Société où l'enrôlement est obligatoire. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'est la question qui est posée, si ce fameux nationalisme ukrainien qu'on met en avant était une réalité, pourquoi rendre alors l'enrôlement obligatoire? Je pense que la question mérite d'être posée. Donc sur ce site DDT21, vous trouverez donc un article, notamment l'Ukraine et ses déserteurs, qui est donc rédigé donc en deux parties, où il y a donc vraiment beaucoup d'informations sur la réalité de la société ukrainienne face à la guerre, et notamment c'est l'objet de l'article, donc de ceux qui refusent la guerre et qui sont donc des déserteurs aux yeux de l'État et d'une partie de la société, donc des traîtres à la patrie, des traîtres à la nation. Donc une une société, vraiment, voilà, DDT 21. Hein, 21, c'est en chiffres. Voilà, je vous conseille, et donc l'auteur Tristan Léoni. Donc vraiment des articles à lire, où, et je ne vais pas revenir sur ces articles, hein, puisque je les avais à l'époque largement lus et commentés, mais où l'on voit notamment quelque chose qui est dit et qui renvoie à la réalité aussi de la société étatiste, capitaliste, c'est le fait que les hommes qui vont mourir sur le front par dizaines de milliers, côté ukrainien, eh bien, ne sont pas des jeunes hommes. À savoir, quand on a 18 ans, on va pas sur le front. Quand on a 18 ans, eh bien, on reste à l'arrière. Eh bien, parce que on représente l'avenir économique de l'Ukraine après la guerre. Ce qui me renvoie, et je repense à cet autocollant que vous avez peut-être vu accolé ou que vous avez peut-être vous-même collé, c'était un autocollant de la Fédération anarchiste qui disait et qui dit toujours « En temps de guerre, chair à canon, en temps de paix, chair à travail ». Et on voit à quoi l'individu est ramené, résumé dans cette société-là, une vie à être exploitée au boulot, chair à travail, et à certains moments donnés de l'histoire, chair à canon quand il s'agit de défendre donc la nation, la patrie, etc. Donc, ce qui est un résumé peut-être extrême, un raccourci peut-être très très rapide, mais qui renvoie, je pense, si l'on y regarde bien, à une certaine réalité. Je vais en rester là pour aujourd'hui, il est bientôt moins 10, et simplement lire cette affiche dont je partage tous les mots. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un texte quand même dedans hein, qui revient sur les désertions et refus de combattre côté russe, les sabotages et manifestations contre la guerre qui ont eu lieu donc, en Russie. L'affiche date de juillet 2022. Avec ce texte, « Traître à toutes les patries, unissons-nous ». Et je pense que l'avenir, l'espoir réside là, même si aujourd'hui il peut paraître mince, bien évidemment. Mais mon cœur, ma sympathie, mon amitié, ma solidarité va effectivement à ceux qu'on appelle refusniks en Israël, ceux qu'on appelle déserteurs ou traîtres en Ukraine, ceux qu'on appelle déserteurs ou anti-guerre en Russie, ceux qu'on emprisonne en Biélorussie pour leurs opinions aussi. C'est à eux que va vraiment ma solidarité. Et sur cette affiche, il y a un certain nombre de sites aussi, et je vais vous les donner parce que ils sont à visiter. Alors, je pense qu'ils existent toujours. Il y a le site de Assemblaï, donc dont j'avais parlé dans la lecture hein, du premier texte. Ça, c'est donc Assemblaï, donc Y à la fin. Alors, assemblaï.org.ua. Ou encore le site de l'initiative Olga Taratuta, nowar.solidarité.online. Voilà des sites à consulter, comme le site DDT 21, pour tout simplement lire, réfléchir, agir avec ceux qui sont toujours du côté de l'internationalisme, du côté de l'antimilitarisme. À la semaine prochaine, au revoir. Dans l'agenda, j'ai fait un petit oubli. On n'est jamais mal servi que par soi-même. Et j'ai oublié de vous rappeler que c'est pas tout de suite, hein, le 14 septembre à la librairie Publico. On vous invite à la projection du dessin animé La ferme des animaux, d'après l'œuvre de George Orwell. Et un débat, discussion, suivra donc cette projection-là, à laquelle on peut bien sûr assister en famille. Donc l'occasion de discuter de façon intergénérationnelle du thème du pouvoir. Ça continue sur Radio Libertaire, bien sûr. Ça va continuer donc en chanson, en musique. Et puis là, tout de suite, on va écouter La France d'en bas. Ben, la France d'en bas, c'est ceux qui subissent aujourd'hui. La France d'en bas, ben, c'est ceux qui vont payer la facture du réarmement. La facture de cette guerre, de cette austérité, de cette précarité qui va peser encore plus durement sur les épaules. La France d'en bas, c'est une chanson d'Hexazone. À la semaine prochaine, au revoir, bonne semaine à toutes et tous.
d'un peu partout, le seul dérivé de l'année dernière, en fait. Hein.
Bien sûr.